France Culture, sans oser le demander. Géraldine Mosna-Savoie.
Le 28 janvier 1873, il y a 150 ans, naissait Sidonie Gabrielle Colette. Mais l'écrivaine Colette, elle, est née en 1900 et voici comment tout a commencé.
Pour quelle raison vous vous êtes pliée de si bonne grâce aux volontés de M. Willy?
Ah oui, mais je travaillais avec toujours une issue possible, qui était la seule d'ailleurs que j'avais prévue, c'est de penser que ça ne serait jamais publié. M. Willy a pris connaissance des manuscrits et il a dit tout de suite, non, je ne vois pas bien à quoi ça pourrait servir. Et on a laissé les cahiers là. J'ai trouvé ça très, très juste et très, sans doute très légitimé par la médiocrité des souvenirs que j'avais consignés sur mes cahiers d'école. Un an après, M. Willy a rangé son bureau et les tiroirs. Et puis il a retrouvé les cahiers et il a dit, tiens, je ne croyais pas que je les avais laissés là. Et puis il en a repris un. Et puis il a repris le second, et puis le troisième, le quatrième, je ne sais plus du tout combien il y en avait pas mal. Et il a dit, nom de Dieu, je ne suis qu'un con. Et puis il a mis son chapeau à bord plat et il est parti chez Ohlendorf. Et c'est comme ça que je suis devenue écrivain.
Bonjour Audrey de Lecourt-Hénard.
Bonjour.
Vous êtes docteur en littérature française, vous êtes enseignante formatrice à l'INSPE, c'est l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation à Lille, et vous êtes l'autrice d'une thèse sur les Claudines. Claudine après Willy, réminiscence et rémanence des écrits de jeunesse dans l'œuvre de Colette. On vient d'entendre la voix de Colette dans une archive de 1950. Elle raconte comment elle est devenue écrivaine et tout a commencé avec les Claudines. Pourquoi un tel succès des Claudines ?
Alors, quand Colette a commencé à écrire les Claudines, en tout cas, c'est comme ça qu'elle se montre, c'est sur l'instigation de Willy qui lui a suggéré de coucher sur le papier ses souvenirs de jeunesse. Et pourquoi ce succès ? Ben déjà parce que Claudine, c'est une héroïne qui détonne. Donc elle a une certaine verdeur, elle parle de manière on va dire très effrontée pour une jeune fille de son âge. D'ailleurs, il y a Maurras qui avait produit une critique justement des Claudines qu'on supposait écrites par Willy et qui avait dit, cette Claudine, on lui donnerait une trentaine de printemps, plutôt que 15 ou 16 ans. Et elle n'est pas. C'est une héroïne qui détonne, mais qui n'est pas son modèle pour autant. C'est-à-dire que Claudine. Colette s'est inspirée vraiment de ce qu'on pourrait dire toute la tradition du journal d'écolière. C'est-à-dire, je pense qu'il y avait des héroïnes qui sont nées au 19e siècle. Moi, je pense à Sophie, la comtesse de Ségur, des malheurs de Sophie, à Alice de Lewis Carroll, qui commençaient à être des jeunes filles émancipées, c'est-à-dire qui commençaient à se poser la question de ce qu'elles avaient envie de faire, du non-respect des normes, on va dire, et à la fois Colette est allée dans cette veine justement de la jeune fille effrontée, de la jeune fille qui qui va vraiment aller à l'encontre de ce qu'on attend d'une jeune fille, mais en même temps avec quelque chose de nouveau. Je vais prendre l'exemple on parlait donc du journal d'écolière. Alors bien sûr, ça concerne pas Sophie, ça concerne pas non plus Alice, mais néanmoins, quand on écrivait son journal, donc à la fin du 19e siècle, on prenait le journal comme un confident. Et ce que je trouve très intéressant, notamment dans Claudine à l'école, c'est que le journal est un confident avec une certaine prise de distance. C'est-à-dire qu'il arrive à Claudine de dire « Alors ça, non, ça par exemple, je ne vais pas le dire. Ça, je ne vais pas le confier à mon journal. Oui. » Voilà, comme s'il y avait déjà une prise de distance. Et donc, c'est à la fois cette tradition et cette modernité, parce que je pense que l'originalité des Claudine, justement, vient dans ces interstices qui a fait, je pense, le succès de l'œuvre.
Alors, je parle des Claudine comme si tout le monde connaissait les Claudine de Colette. C'est vrai que c'est l'œuvre qui a lancé Colette, on l'a entendu, c'est ça qui a fait qu'elle est devenue écrivain. Est-ce que vous pouvez nous présenter quand même cette série des Claudine, parce qu'il y en a plusieurs. Ça commence avec Claudine à l'école, Claudine après à Paris, Claudine en ménage, Claudine s'en va, et on peut rajouter quand même aussi la retraite sentimentale et peut-être, on verra au fur et à mesure de cette émission, la maison de Claudine. C'est quoi cette série en fait? Comment elle s'est construite?
Donc cette série s'est construite, on entendait Colette qui en parlait justement à l'instigation de Willy, qui lui a suggéré d'écrire...
Donc Willy, c'est son mari.
C'est son mari, oui, voilà. Donc son premier mari, parce qu'elle en a eu trois. Donc qui lui a suggéré de raconter ses souvenirs d'enfance. Donc il faut savoir que Willy était à la tête de ce qu'on appelait à l'époque les ateliers Willy. C'est-à-dire qu'il publiait énormément de livres sous son nom, d'ouvrages qu'il n'écrivait pas d'ailleurs, puisqu'il y avait un certain nombre de plumes qui écrivaient pour lui. Et Colette, au départ, comptait parmi ses plumes. C'est-à-dire que au départ, la série des Claudine, qui était censée retracer ses souvenirs d'enfance, a été publiée sous le nom Willy. Il y avait quelques initiés qui savaient que Colette en était l'autrice, mais ça n'était pas, on va dire, c'était dans un petit monde. Sinon, on pensait que c'était Willy qui était l'auteur des Claudine.
Donc c'était vraiment secret.
Oui, c'était vraiment, si ce n'est secret, bon, ça a été vanté notamment au moment de la séparation. Comme je vous disais, un petit monde était au courant, mais pas le grand public. Donc le succès public au départ, c'était vraiment le succès de Willy. Et donc, elle a écrit Claudine à l'école, puis Claudine à Paris. Là, on voit, vous voyez, des traces de la matière biographique, justement, de Colette, puisque Claudine, comme Colette, quitte la campagne bourguignonne pour aller à Paris. Mmh. Après, Claudine emménage. Donc, une fois que Claudine est mariée à Renaud, qu'elle a rencontré dans le tome précédent. Alors, pour finir, la série, on va dire, écrite à quatre mains avec Willy par Claudine s'en va, dont on reparlera, je pense, tout à l'heure.
Oui, oui.
Alors, quand vous disiez qu'on pouvait ajouter aussi la retraite sentimentale, eh bien, pourquoi? Parce que la retraite sentimentale, c'est un épisode que Colette a écrit seule. Voilà. Qu'indépendamment de Willy, elle l'a signé seule. Et puis, la maison de Claudine, dont on interrogera, au sujet de laquelle on interrogera le retour du nom Claudine.
Alors quand même, les Claudine, c'est une série vraiment paradoxale. On va parler plutôt de la figure de Colette. C'est que Colette est devenue ce qu'elle est en tant qu'écrivaine avec les Claudine. Mais là où c'est paradoxal, c'est que comme vous l'avez dit, c'était signé avec Willy, d'abord par Willy et après avec Willy. Encore maintenant, dans les Pléiades, c'est Colette et Willy, l'auteur de cette série. Et puis aussi à travers un personnage qui est à la fois elle, Claudine, et dont elle ne va cesser de se détacher. Donc c'est quand même une naissance assez paradoxale.
Oui, tout à fait. Quand Colette écrit l'histoire de Claudine, elle s'inspire évidemment de ses souvenirs d'enfance. D'ailleurs, quand Claudine à l'école est sortie, ça a été un véritable scandale à Saint-Sauveur parce que...
Donc Saint-Sauveur-en-Puisaye, c'est le village de Colette, c'est
oui,
ça?
Oui, tout à fait. C'est le village natal de Colette et ça a été un véritable scandale parce que tout un chacun pensait s'y reconnaître. Cela dit, ça correspondait vraiment aussi à une mode de l'époque, cette très belle époque aussi, ces petits romans ou ces articles de presse à clé, c'est-à-dire dans lesquels on présentait sous forme de personnages de fiction des personnes réelles qui étaient à peine grimées. Et l'un des grands jeux, même dans le petit milieu parisien de l'époque, c'était vraiment de chercher à faire correspondre les personnages de fiction avec les êtres réels. Et donc, Colette, on pourrait croire qu'en écrivant Claudine, elle est dans cette veine-là. Mais, comme vous le soulignez, il y a un décalage quand même qui se crée, notamment parce que on note que Claudine a un père et n'a pas de mère, ce qui n'est pas le cas de Colette, et on sait bien à quel point la mère devient un personnage central dans son œuvre par la suite, et aussi parce que justement Colette après sa séparation d'avec Willy, quand elle parlera des Claudine, elle n'arrêtera pas de chercher à s'en séparer et d'expliquer, alors notamment dans Les Vrilles de la Vigne avec cette métaphore du miroir, à quel point les Claudine sont un miroir déformant. et à quel point on ne peut pas la réduire justement à ce personnage de Claudine.
Et puis un des autres paradoxes, c'est qu'on a l'impression, quand on a la série des Claudines sous la main, que c'est de la littérature pour jeunes filles, peut-être pour collégiens, voilà, ou pour collégiennes, voilà, qu'on va pouvoir se reconnaître dans le personnage de Claudine quand elle est à l'école. Or, pour l'avoir lu au collège et relu pour cette émission, il y a plein de passages qui sont extrêmement crus et dont on ne se rend pas forcément compte quand on est plus jeune. C'est pas de la littérature jeunesse.
Ah non, on n'est pas dans la veine de la littérature de jeunesse.
C'est pas Les Malheurs de Sophie, de ce point de vue-là.
Non, alors justement, le fait de pouvoir se dire que Claudine à l'école, notamment, est un roman à destination des jeunes filles, ça tient, je pense, aussi à la préface, parce que...
Qu'est-ce qu'il y a dans cette préface ?
Alors, dans cette préface, donc, Willy explique, il reprend aussi un stéréotype très conventionnel, qu'il a reçu ce journal, le noué d'un ruban, qu'il l'a lu, que c'était une jeune fille, qui l'avait écrit. Bon, ça reprend quelque chose d'assez topique chez les auteurs jusqu'au XXe siècle, du manuscrit trouvé dont on est l'éditeur mais qu'on n'a pas écrit. Et puis c'est vrai qu'à la lecture, on se dit qu'effectivement, cette jeune fille est déjà tout de même très informée pour ce qu'on pourrait attendre d'une jeune fille de son âge et a une verdeur de langage et une hauteur de pensée aussi par rapport à ses camarades de classe. Qui ne la fait pas ressembler à ce qu'on pourrait attendre d'une écolière qui pourrait passer le certificat d'études, et le certificat d'études, le brevet élémentaire. Et par ailleurs, je reprends cette idée de la mise à distance du journal. Les journaux d'écolières, jusqu'ici, c'était vraiment l'écolière qui se confiait à son journal, qui écrivait « Cher journal », et puis qui disait ce qu'elle avait à lui dire. Claudine, c'est vraiment une héroïne qui met à distance l'idée d'une confidence, c'est-à-dire qui est déjà méfiante, qui prend de la distance, qui est toujours ironique, y compris vis-à-vis de ses camarades de classe.
Et aussi à l'égard des adultes.
Et aussi tout à fait à l'égard des adultes, parce que, par exemple, il suffit de voir comment elle considère l'institutrice Mademoiselle Sergent, les sous-entendus qu'elle peut faire vis-à-vis des relations des uns et des autres, parce que c'est pareil, l'univers de l'école, donc ce que Willy appelait sa laïque, justement, mais de l'école publique de l'époque, est vraiment peint au vitriol et... C'est pas du tout une image valorisante qui en est donnée. Donc, par conséquent, oui, ça détonne et c'est pas du tout un roman qui semble...
C'est pas naïf.
C'est pas naïf, c'est pas prévu pour la jeunesse. Enfin, pas prévu pour la jeunesse. Des jeunes filles pourraient l'ouvrir en s'y retrouvant et en réalité, c'est un public beaucoup plus adulte qui va y trouver son compte. Et d'ailleurs, plus on va avancer dans le cycle et plus l'idée de la jeune fille qui écrit son journal va s'écarter.
Je m'appelle Claudine, j'habite Montigny. J'y suis née en 1884. Probablement, j'y mourrai pas. Mon manuel de géographie départementale s'exprime ainsi. Montigny en Frénois, jolie petite ville de 1950 habitants, construite en amphithéâtre sur la Thèse. On y admire une tour sarrasine bien conservée. Moi, ça ne me dit rien du tout, ces descriptions-là. D'abord, il n'y a pas de Thèse. Je sais bien qu'elle est censée traverser des prés au-dessous du passage à niveau, mais en aucune saison vous n'y trouveriez de quoi laver les pattes d'un moineau. Montigny construit en amphithéâtre ? Non, je ne le vois pas ainsi. À ma manière, c'est des maisons qui dégringolent, depuis le haut de la colline jusqu'en bas de la vallée. Ça s'étage en escalier au-dessous d'un gros château rebâti sous Louis XV et déjà plus délabré que la tour sarrasine, basse, toute gainée de lierre, qui s'effrite par en haut un petit peu chaque jour. C'est un village et pas une ville. Les rues grâce au ciel ne sont pas pavées. Les averses y roulent en petits torrents, secs, au bout de 2 heures. C'est un village, pas très joli même, et que pourtant j'adore. Le charme, le délice de ce pays fait de collines et de vallées si étroites que quelques-unes sont des ravins. C'est les bois profonds et envahisseurs, qui moutonnent et ondulent jusque là-bas, aussi loin qu'on peut voir. Des prés verts, les trous par place. De petites cultures aussi, pas grand-chose. Des bois superbes, dévorant tout. De sorte que cette belle contrée est affreusement pauvre, avec ses quelques fermes disséminées, peu nombreuses. Juste ce qu'il faut de toit rouge pour faire valoir le vert velouté des bois.
Ça suffit. Pouvez-vous me dire où se trouve Mademoiselle Aimée?
Je sais pas pourquoi.
J'ai un petit mot pour elle. C'est pour mon ami Duplessis. Vous savez, Richelieu. Il est trop timide pour lui donner lui-même.
Moi, je sais où elle est. Elle est dans la classe de Mademoiselle Sergent avec Monsieur Dutertre.
Merci. Ne partez pas, Mademoiselle Claudine. Je reviens de suite.
T'as encore fait une touche, ma chère.
Dis donc, t'as produit un sacré effet sur le délégué cantonal. Hein.
Pas tant que Mademoiselle Aimée. Évidemment, elle a 19 ans, elle.
Oh ben, celles-là, ils sont tous après. T'as vu le pauvre Richelieu? Il la mange des yeux.
À mon avis, il y a Anguille sous roche.
Mais ça alors, tu la connais pas, elle s'en fiche pas mal.
Dans la parole, on dirait que t'es jalouse.
Idiote. Do you want biscuits?
Yes, they are delicious.
Vous avez reçu le message du maître d'école? C'était une lettre d'amour, évidemment.
Clotine, nous ne travaillons pas, c'est pas sérieux. Si votre père entrait...
Comme ça, il ne rentrera pas. C'est le sens en une corvée pour vous, n'est-ce pas?
Mais non, au contraire, vous savez très bien. Je ne suis bien qu'ici. Je ne me plais qu'avec vous.
C'est vrai? Alors embrassez-moi.
Le ton est donné avec Claudine à l'école, les premières lignes de Claudine à l'école lues par Isabelle Carré. Je m'appelle Claudine, j'habite Montigny, j'y suis née en 1884, probablement je n'y mourrai pas. Alors vous le dites, Audrey Delecourt-Hénard, cette première phrase, c'est à la fois une rupture dans la littérature, mais aussi une manière, comme vous l'avez dit, de poursuivre cette tradition du journal.
Oui, tout à fait. Alors, rupture parce que il y a l'idée justement de cette jeune fille qui est tout de suite complètement lucide sur ce que va être son avenir. Et puis aussi lucide, ça s'est développé plus tard dans le récit, mais sur l'avenir qui attend les autres jeunes filles qui sont à Saint-Sauveur. Ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait fondamental dans l'œuvre. C'est qu'on est dans un univers rural. Et puis on se rend compte que pour ces jeunes filles qui n'ont pas le fond culturel que peut avoir Claudine, c'est soit rester à la ferme finalement, soit devenir institutrice de l'école communale, mais qu'il n'y a pas vraiment d'autres chemins possibles. Claudine, elle, on va le voir après, notamment par son éducation, parce qu'elle a quand même une éducation supérieure aux autres, elle va pouvoir avoir accès à cet ailleurs. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant... Le roman commence par ce qu'on pourrait appeler une parodie de manuel de géographie, oui. Justement, où elle décrit très précisément la topographie du lieu, pour après dire « moi je ne pense pas, je ne reconnais pas ».
Pour commenter en fait le manuel géographique.
Tout à fait, pour commenter le manuel géographique, et ce qui est tout à fait intéressant et qui donne le ton d'ailleurs de ce que va être l'esthétique de Colette par la suite, c'est qu'on remplace ce qui relève de l'objectivité, finalement, de la description du manuel par une description qui est tout à fait subjective et qui s'appuie sur le ressenti. D'ailleurs, Claudine le dit, elle dit que ce village n'est pas très beau et que pourtant elle l'aime.
Et c'est ce que vous avez dit en fait, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de place pour d'autres voies que d'être institutrice ou rester à la ferme. Mais Claudine, dès le départ, avec cette manière de parodier en fait le manuel de géographie, fait entendre sa propre voix. Elle oppose au savoir et au chemin tracé une manière très subjective et très intime d'être elle-même. Et ça va être tout au long de la série des Claudines, à ceci près que Claudine, qu'on croyait être un personnage presque achevé dès le premier roman Claudine à l'école, ne va cesser de grandir elle-même.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Claudine a, si on peut dire, survécu dans l'œuvre de Colette. Alors, contrairement à une autre héroïne, enfin, contrairement, disons qu'il a connu une postérité, mais pas la même, qui est l'héroïne Kémine, donc qui était une autre tentative de Colette et Willy, justement, pour écrire l'histoire d'une jeune fille.
C'est qui, Mine?
Alors, Mine, c'est une autre jeune fille dont Colette et Willy ont écrit, d'ailleurs, les aventures. Donc, Mine et les égarements de Mine que Colette ensuite a repris en son nom propre et a fondu en un seul roman pour qu'elle appelait l'ingénue libertine. Et Mine, l'histoire de Mine est d'une qualité littéraire qui est bien moindre à celle de Claudine, parce que Mine, justement, n'a pas cette profondeur psychologique. Et puis, l'histoire de Mine tient finalement en très peu de choses. Voilà, elle épouse son amie d'enfance. Elle connaît diverses aventures sexuelles parce que elle n'est pas heureuse avec lui. Et puis, en définitive, elle revient et elle se rend compte qu'elle trouve la plénitude auprès de son mari. Donc, c'est beaucoup plus caricatural, beaucoup plus schématique, alors que, comme vous le dites, il y a cette profondeur psychologique chez Claudine qui fait qu'elle va évoluer justement au fil des textes, au fil des romans du cycle, et qu'elle va aussi découvrir les blessures, puisqu'on la voit très sûre d'elle, très supérieure dans Claudine à l'école, très ironique, comme vous le disiez, qui se moque allègrement des amis de classe, qui se moque...
On l'a entendu là d'ailleurs, hein, dans l'extrait, il y a Anaïs, il y a Luce, il y a Marie Bellhomme avec ses grandes mains de sage-femme. Oui. C'est tout un casting en fait assez presque caricatural, mais qui en fait est beaucoup plus sensible que ça, beaucoup plus attachant que ça, beaucoup plein de doutes en fait, on peut le dire.
Oui, tout à fait. Parce que le personnage notamment de Luce est particulièrement attachant, parce que Luce, donc, c'est la sœur d'Aimé Lantenay, qui est une institutrice, alors qu'on entendait dans l'extrait justement...
Oui, qui donne le cours d'anglais à Claudine.
Voilà, qui vient donner le cours d'anglais à domicile à Claudine. Et puis, Claudine, qui la trouve plutôt à son goût, se fait assez caressante avec elle.
Luce, c'est une manière de le dire, oui.
Luce est la petite sœur d'Aimé. Alors, Luce, c'est elle qui, au contraire, on va aller jusqu'à dire ça, courir après Claudine, justement, pour être aimée de Claudine, qui la rejette parce qu'elle la trouve assez peu fine, parce qu'elle la trouve assez collante, justement. Et Luce, c'est un personnage qu'on va retrouver dans Claudine à Paris. Et quand on va la retrouver dans Claudine à Paris, là, c'est totalement autre chose.
Oui, vous pouvez le raconter, parce que c'est vrai que c'est assez frappant. Luce, c'est vraiment, vous l'avez dit, c'est le personnage un petit peu timoré, qui est complètement dominé par Claudine, hein, qui se fait battre par elle. On va pouvoir revenir quand même sur ces scènes un peu de cruauté d'enfance. Et puis, raconter quand Claudine la retrouve au Parc Monceau à Paris.
Oui, tout à fait. Alors, Claudine va retrouver Luce au Parc Monceau à Paris au cours d'une promenade. Elle va trouver Luce... curieusement bien habillée, très élégante, comme une vraie dame. Et quand elle va... quand Luce va l'aborder, enfin quand elles vont se rencontrer, elle va demander à Luce ce qui lui est arrivé. Et là, Luce lui explique que elle était battue par sa sœur, que ses parents ne se souciaient pas d'elle, et que donc elle a décidé de fuguer pour venir demander asile chez un oncle beaucoup plus âgé qu'elle et également très fortuné. Encore un stéréotype, le fameux oncle fortuné de Paris qu'on retrouve par ailleurs beaucoup dans la littérature. Et donc, moyennant quelques services sexuels, pour le dire de manière vraiment très atténuée, parce que on peut plutôt dire en réalité qu'il s'agit de viol à répétition, Luce va vivre dans l'aisance, moyennant de devenir l'esclave sexuelle de son oncle.
Donc, personnage vraiment, effectivement, on voit qui évolue de Luce, et donc quand même revenir sur cette... ces scènes très crues, en fait. C'est-à-dire que c'est là où on disait que c'est pas un livre jeunesse, c'est que déjà, entre Mademoiselle Sergent et Mademoiselle Aimé Lantenay, en fait, entre la directrice de l'école et l'institutrice, donc la grande sœur de Luce, en fait, c'est une histoire d'amour. Les instituteurs, le délégué cantonal sont quand même des vieux mecs qui passent leur temps à reluquer les petites filles. Quand Claudine se promène dans Paris, elle attend que les hommes la suivent et lui pincent les fesses pour après leur donner des coups de parapluie. Donc c'est quand même un monde de violence, d'intrusion, de harcèlement, et le terme de viol est prononcé par Luce elle-même, qui entoure en fait ce monde de jeunes filles.
Oui, tout à fait. Et ce qui est rendu d'autant plus glaçant, d'autant plus que la narratrice est Claudine, qui est elle-même une jeune fille, c'est que cette violence est perçue par ces jeunes filles comme faisant partie de la norme. Et par exemple, lorsque Luce rappelle à Claudine les journaux qu'elle pouvait lire quand elles étaient à Montigny, rappelant justement la manière dont un libraire d'Auxerre avait violé une de ses employées, elle dit ben, il m'arrive la même chose, mais sans en concevoir plus de révolte que cela, finalement. Et d'ailleurs, il y a une phrase que prononce Claudine lorsqu'elle découvre, notamment en se rendant chez Luce, que Luce a encore des cahiers, un bureau, un tablier d'écolière, parce que là, je vais citer, elle dit que ça met en train son oncle, justement. Claudine dit que Luce est devenue une écolière à perpétuité. Et ça, c'est quand même une phrase qui est forte, puisque ça veut dire que, à part finalement pour le personnage de Claudine, aucune évolution n'est possible. La seule évolution qui est possible pour Luce, c'est la prostitution. Mmh. Et que même dans ce cadre de prostitution, finalement, elle retrouve ce qu'elle a fui, c'est-à-dire l'école, l'établier, le maître d'école qui va lui faire faire de l'arithmétique. Et Claudine est complètement épouvantée. Elle voit ça et elle se dit, mon Dieu, mais j'imagine ce vieux maître qui l'interroge sur les fractions décimales. Et d'ailleurs, quand elle quitte l'appartement de Luce, elle est complètement étourdie, elle ne sait plus où elle en est. Et là, on voit que cette violence est présentée et assez banalisée. C'est que Claudine dit, en quelques mois, suis-je devenue bien bégueule ?
Et elle qui était si émancipée, si dévergondée, devient presque morale, elle dit.
Oui, tout à fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est intéressant et même dérangeant, je dirais, même plus, c'est de se rendre compte que le fait de ne pas d'être choquée par le statut d'objet sexuel de Luce provoque une gêne chez Claudine parce que ça la renvoie à elle-même. Elle se dit ne serais-je finalement qu'une petite bourgeoise comme une autre ? Finalement, je suis choquée parce que vit Luce, mais moi, quand je lisais ça dans les journaux, finalement, ça ne me choquait pas. C'est un petit peu ce qu'il faut lire à travers. Mmh. Et dans Claudine à Paris, ce qui est intéressant, c'est justement qu'on passe de ce qui était lu dans les journaux, ce qui est à dire qui restait à l'état de pure fiction pour les personnages, à la réalité concrète de la sexualité et du viol, justement.
Donc après Claudine à l'école, vous l'avez dit, on vient d'en parler, il y a donc Claudine à Paris qui a eu le brevet, qui a suivi son père à Paris. Quand elle arrive à Paris, elle se sent déracinée de son village de Montigny. Elle a quand même un gros coup de mou, on peut le dire. Elle tombe malade et puis elle fait la connaissance de Marcel, qui est son cousin, de sa tante Cœur et de celui qu'elle présente comme son oncle, qui est Renaud. Et avec Renaud, eh bien, ça va être, elle ne va bientôt plus l'appeler oncle, il faut le dire, puisqu'elle va tomber amoureuse de lui.
Trois grands verres d'asti, petit Arni. Mais comme c'est bon. Les oreilles font Les deux gros monsieur qui mangent, à deux tables de nous, existent-ils réellement ? Ils se rapprochent sans bouger. En étendant la main, je parie que je les touche. Non. Les voilà très loin. D'ailleurs, ça manque d'air entre les objets. Les lustres collés au plafond, les tables collées au mur, les gros monsieur collés sur le fond clair des manteaux pailletés assis plus loin. Je m'écrie. Je comprends, tout est en perspective japonaise. Renaud lève un bras désolé, puis s'essuie le front. Dans la glace de droite, quelle drôle de Claudine. Avec ses cheveux en plumes soufflées, ses yeux longs envahis de délices troubles et sa bouche mouillée. C'est l'autre Claudine, celle qui est hors d'état, comme on dit chez nous. Et en face d'elle, ce monsieur à reflet d'argent qui la regarde, qui ne regarde qu'elle et ne mange plus. Oh, je sais bien. Ce n'est pas l'asti, ce n'est pas le poivre des écrevisses. C'est cette présence-là, c'est ce regard presque noir aux lumières qui ont enivré la petite fille. Tout à fait dédoublée, je me vois agir, je m'entends parler avec une voix qui m'arrive d'un peu loin, et la sage Claudine enchaînée, reculée dans une chambre de verre, écoute jaser la folle Claudine et ne peut rien pour elle. Elle ne peut rien, elle ne veut rien non plus. La cheminée dont je redoutais l'écroulement, elle est tombée à grand fracas, et la poussière de sa chute fait un halo d'or autour des poires électriques. Assiste Claudine sage et ne remue pas. La Claudine folle suit sa voix avec l'infaillibilité des fous et des aveugles. Claudine regarde Renaud. Elle bat des cils éblouis. Résigné, entraîné, aspiré dans le sillage, il se tait et la regarde avec plus de chagrin encore, on dirait, que de plaisir.
Aujourd'hui, Claudine a grandi. Elle a mis du noir à ses yeux. Le ruban qu'elle avait aux cheveux a disparu, a disparu. Aujourd'hui, Claudine a grandi. Elle a mis du rouge à ses lèvres. Elle a mis de l'amour dans ses rêves. Et moi, je crois que je ne l'aime plus, que je ne l'aime plus. Je me souviens des parties de marelle. C'était Claudine qui gagnait toujours. Et si parfois je me battais pour elle, c'est que déjà je découvrais l'amour. L'amour. Aujourd'hui, Claudine a grandi. Elle a mis des perles à son cou. Le jardin de tous nos rendez-vous a disparu. A disparu aujourd'hui.
La Claudine sage s'efface timidement, admirative et respectueuse devant l'autre, la folle Claudine qui est allée droit où le destin l'a poussée sans se retourner comme une conquérante ou une condamnée. Alors voilà, Claudine grandit. Est-ce qu'on peut dire que la série des Claudines est une série de romans d'apprentissage, d'initiation même ?
Oui, je pense que dans une certaine mesure, on peut le dire, puisque Claudine va apprendre non seulement à découvrir ici l'amour, mais elle va également apprendre à souffrir aussi. Elle va apprendre à contrôler cette souffrance, elle va apprendre à vivre avec. Et là, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que c'est par le truchement de l'ivresse que va se produire une première évolution. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de mystérieux en soi, puisque dès le début de Claudine à Paris, j'ai envie de dire, c'est cousu de fil blanc, l'histoire d'amour qui va se nouer entre Claudine et Renaud.
Vous l'avez tout de suite vu.
Ben oui, parce que quand par exemple, au départ, elle l'appelle mon cousin l'oncle, donc on voit déjà qu'il y a une certaine ironie par rapport au lien familial qui finalement... l'air quand même mis à distance. La première fois qu'elle rencontre Renaud, elle a commencé par rencontrer son fils Marcel, qui est envisagé un premier temps par la tante cœur comme étant un parti possible pour Claudine, mais bon, Marcel étant très efféminé, n'étant pas du tout attiré par les femmes très rapidement.
Et qui dit rapidement d'ailleurs qu'en fait, il a un compagnon qui s'appelle Charlie.
Oui, très vite, il n'en fait pas mystère à Claudine. Très vite, il lui dit qu'il a un compagnon qui s'appelle Charlie. Voilà, il se confie très rapidement, y compris, voilà, il fait partie d'une communauté qui a le goût du travestissement. Donc, c'est pas quelque chose dont il fait mystère. Et par contre, quand Claudine va rencontrer Renaud, alors, Renaud, donc avec beaucoup d'ironie, s'étonne justement du fait que Marcel ait rendu visite à Claudine et dit, donc il en fait part à Claudine. Et Claudine dit à Renaud, non mais je suis beaucoup trop garçon pour lui. Et là, Renaud, avec beaucoup d'ironie, dit non, je ne crois pas. Et donc, on peut voir les prémices d'une attirance d'emblée. Et le passage là qu'on vient d'écouter, c'est un passage qui est beaucoup plus tard dans le roman. Elle est sortie avec Renaud, ils sont au restaurant.
On est presque à la fin du roman.
Presque à la fin du roman, tout à fait. Elle est ivre. Et l'ivresse, en réalité, est un truchement par lequel Claudine, qui devient femme, va céder à l'homme.
Voilà. Oui.
Et c'est ce qui est dit très clairement, c'est que c'est pas l'astie qui la rend, qui fait qu'elle se jette à la figure de Renaud. Elle dit très clairement que c'est autre chose, qu'elle est amoureuse et qu'elle a décidé de lui céder. Et là, à ce moment-là, c'est Renaud qui prend de la distance, puisque la narratrice dit très clairement qu'il y a plus de chagrin que de bonheur dans sa façon de la regarder. Et le dédoublement qui peut exister entre la Claudine sage et la Claudine folle, justement. C'est cette Claudine qui aimerait garder le contrôle d'elle-même. Et cette Claudine qui, au contraire, se jette à la tête de l'homme qu'elle aime, tout en étant consciente qu'elle va aussi vers ce qui la condamne. C'est-à-dire...
Mais ça, c'est vraiment frappant. C'est une phrase... qui n'était pas dans l'extrait qu'on a entendu interprété par Isabelle Carré, mais qui clôt ce passage de l'ivresse quand Claudine rentre chez elle. Et effectivement, Claudine se dit qu'elle est soit conquérante, soit condamnée. Ce qui trace bien, en fait, toute l'alternative de l'existence de Claudine une fois qu'elle est tombée amoureuse de Renaud. Elle ne sait pas, en fait, si c'est elle qui est maîtresse de son destin ou si, en fait, elle choisit d'être soumise définitivement à lui.
Alors, à cet égard, il y a un passage qui est très intéressant, qui est vraiment les toutes dernières pages de Claudine à Paris. Donc, après cet épisode d'ivresse dont Claudine conçoit une certaine gêne, Renaud vient lui rendre visite et elle lui propose de devenir sa maîtresse. C'est-à-dire qu'elle s'offre à lui sans contrepartie. Elle ne veut pas son argent, tout à fait. Elle dit, je ne veux pas l'argent de Marcel, puisque elle a peur qu'on lui reproche de voler l'héritage de son futur beau-fils. Qui, soit dit en passant, a à peu près son âge.
Oui.
Et donc, elle dit « Je serai votre maîtresse ou rien ». Et là, Renaud reprend en disant « Ma femme ou rien ». Et ce qui est très intéressant, c'est que tout est dans l'implicite, parce qu'elle ne va jamais dire « Oui, je veux vous épouser ». C'est une phrase qui est totalement absente. C'est-à-dire qu'elle ne lui dit pas « Oui » explicitement. On nous dit qu'elle cède, elle nous dit qu'elle cède, elle nous dit qu'elle est désorientée, qu'elle ne sait plus où elle en est. Mais le « Oui », ça n'est pas quelque chose qui apparaît.
Et c'est tout le paradoxe de Claudine qui apparaît sans cesse comme une figure extrêmement émancipée, sûre d'elle, confiante, mais finalement qui est tout le temps en proie au doute, à des grands moments quand même de déprime, de dépression d'une certaine manière. Elle est elle-même tout le temps double. Elle parle de dédoublement entre la Claudine sage et la Claudine folle, mais il y a aussi en fait la Claudine sûre d'elle et la Claudine qui est tout le temps en train d'hésiter en fait, qui ne sait pas vraiment si elle peut choisir.
Oui, tout à fait. Elle est toujours, elle se demande toujours si elle est fidèle à l'image d'émancipation qu'elle renvoie. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce personnage. C'est qu'elle est toujours en train de se demander, suis-je vraiment si émancipée? Maintenant que je suis mariée, ça on va le voir dans Claudine en ménage, et elle a une idée très préconçue de ce que doit être le couple une fois qu'on est marié. Et elle va dire d'ailleurs cette phrase à Renaud qui est « je vous ordonne de me dominer », qui est quand même une phrase assez paradoxale, parce que elle a une idée préconçue de ce que doit être sa vie, et finalement les événements ne vont cesser de démentir cette idée qu'elle se fait des choses, et c'est ce qui explique la double nature du personnage, un personnage à la fois émancipé, à la fois confiant, qui se démarque des autres par la verdeur de sa manière de parler, et en même temps un personnage qui doute, un personnage qui ne sait plus où il en est, un personnage qui quelque part a beaucoup de difficultés à faire front justement à l'inattendu.
Ce qui fait aussi qu'on ne peut pas qualifier Claudine en fait de féministe, et on ne pourrait pas voir dans cette série-là l'œuvre d'une féministe, à savoir Colette.
Non, mais Colette a toujours récusé cette étiquette de féminisme. Alors, le féminisme, c'est une notion qui a émergé plutôt à la fin de sa vie. C'était une notion qu'elle récusait parce que elle estimait que l'émancipation des femmes ne passait pas forcément par une émancipation, on va dire, sociale, c'est-à-dire par le droit, même le droit de voter, le droit de s'engager en politique. Elle pensait que l'émancipation des femmes passait avant tout par une émancipation beaucoup plus intérieure, beaucoup plus personnelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand elle a rencontré Simone de Beauvoir à la fin de sa vie, voilà, l'échange n'a pas été très 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 fructueux, parce que Simone de Beauvoir, elle faisait partie d'une génération qui était justement beaucoup plus dans l'action, et c'était pas de cette manière-là que Colette percevait les choses. On peut même dire qu'il y a une contradiction entre le discours et les actes chez Colette, puisque alors qu'elle a mené elle-même une vie extrêmement libre et émancipée, alors même que ses héroïnes font preuve d'émancipation, ça n'est jamais une émancipation sociale. Il n'y a pas chez Colette d'héroïnes qui vont revendiquer quoi que ce soit.
Oui, c'est pas politique, c'est pas militant. C'est
Non, c'est pas politique, c'est pas militant. En revanche, on a des personnages féminins qui sont toujours extrêmement solides, qui sont toujours extrêmement vigoureux, qui sont des personnages extrêmement forts, parfois même voilà, qui n'hésitent pas à se montrer, à se dénuder à la limite de l'impudicité, alors que les personnages masculins sont très souvent fades, transparents.
Oui, c'est vrai que Renaud, quand même, voilà, vous vous dites que dès le début, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se noue entre eux. Alors effectivement, selon moi, l'indice, c'est que Renaud est une des seules personnes qui la fasse rire dans un moment de déprime. Mais sinon, Renaud est tout le temps à attendre d'elle qu'elle fasse un signe. Elle en attend plus de lui. Elle lui dénonce, elle lui demande, elle lui ordonne de la dominer et il n'y arrive pas.
Oui, tout à fait. C'est elle qui guide Renaud, finalement. C'est elle qui va le mener à la demander en mariage, ce qui est tout à fait paradoxal, puisqu'elle, on en parlait à l'instant, elle... dans un premier temps, lui dit « je serai votre maîtresse ou rien ». Et lui dit « non, ma femme ou rien ». Et sans qu'elle dise oui, le mariage se conclut comme ça. Mais finalement, c'est toujours Claudine qui dicte à Renaud son comportement. Et ça, on le voit encore davantage dans Claudine en ménage, puisque Renaud, qui est un personnage extrêmement volatile, extrêmement, Colette le disait elle-même, inconsistant, n'existe que parce que Claudine le fait exister.
Et elle lui écrit cette lettre à la fin de Claudine en ménage.
Cher Renaud, je suis embarrassée pour vous écrire parce que c'est la première fois. Et il me semble que je ne pourrai jamais vous dire tout ce que je veux vous dire avant que parte le courrier du soir. J'ai à vous demander pardon d'être partie et à vous remercier de m'avoir laissé partir. J'ai mis 4 jours à comprendre. Toute seule, dans ma maison et dans mon chagrin, ce dont vous m'eussiez convaincu en peu de minutes. Pourtant, je crois que ces 4 jours n'ont pas été perdus. Vous m'avez écrit toute votre tendresse, cher grand, sans me parler de Rézi, sans me dire « tu as fait avec elle ce que moi-même j'ai fait avec si peu de différence ». C'eût été très raisonnable pourtant, d'une logique à peine boiteuse. Mais vous saviez que ce n'était pas la même chose. Et je vous suis reconnaissante de ne me l'avoir pas dit. Je ne voudrais plus, plus jamais vous causer de chagrin. Mais il faut que vous m'y aidiez, Renaud. Oui, je suis votre enfant. Pas rien que votre enfant. Une fille trop choyée à qui vous devez parfois refuser ce qu'elle demande. J'ai désiré Rézi et vous me l'avez donné comme un bonbon. Il faut m'apprendre qu'il y a des gourmandises nuisibles et qu'à tout prendre, on doit se méfier des mauvaises marques. Ne craignez pas, cher Renaud, d'attrister votre Claudine en la grondant. Il me plaît de dépendre de vous et de craindre un peu un ami que j'aime tant. Je veux encore vous dire ceci, c'est que je ne retournerai pas à Paris. Vous m'avez confié au pays que j'aime. Venez donc m'y retrouver, m'y garder, m'y aimer. Si vous devez me quitter quelquefois, par force ou par envie, je vous attendrai ici fidèlement et sans défiance. Il y a dans ce Fresnoy assez de beauté, assez de tristesse pour que vous n'y craigniez pas l'ennui si je reste auprès de vous. Car j'y suis plus belle, plus tendre, plus honnête. Et puis venez, parce que je ne peux plus durer sans vous. Je vous aime. Je vous aime. C'est la première fois que je vous l'écris. Venez! Songez que je viens d'attendre pendant 4 longs jours, mon cher mari, que vous ne soyez plus trop jeune pour moi.
France Culture, sans oser le demander. Géraldine Mosna-Savoie.
Les dernières pages de Claudine en ménage, lues par Anaïs Isbert. On entend dans cette lettre que Claudine demande pardon à Renaud. Mais alors, que s'est-il passé pour qu'elle lui demande pardon ?
Que s'est-il passé? Eh bien, Claudine a eu une relation homosexuelle avec une jeune femme, Résie. Relation qui était tout à fait connue de Renaud et avec sa bénédiction, puisque, bien sûr, l'infidélité hétérosexuelle était nécessairement répréhensible. On le verra, sauf en ce qui le concernait lui. En revanche, l'homosexualité l'émoustillant quelque peu, ça ne lui posait pas spécifiquement de problème. Et Claudine a découvert ce qu'elle a vraiment considéré comme une trahison, qui est le fait que Renaud avait également une liaison en même temps qu'elle avec cette Résie. Lorsqu'elle s'en est aperçue, elle a fui immédiatement Paris pour retourner à Montigny. Prenant le premier train Gare de Lyon, vraiment en toute hâte. Et donc, à la fin de Claudine en ménage, elle écrit à Renaud, et c'est extrêmement paradoxal, puisque là, c'est elle qui s'excuse, c'est elle qui demande pardon, alors que la trahison vient ici de son mari, justement. Et pour autant, c'est elle qui demande pardon. Alors, c'est extrêmement curieux, cette lettre, puisque elle le supporte, supplie finalement de devenir raisonnable, et en lui disant c'est si vous êtes raisonnable que je pourrais l'être à mon tour.
Puis elle s'infantilise en fait.
Oui, tout à fait.
Elle dit grondez-moi, ce sont des gourmandises nuisibles. Oui. Ce qui était déjà frappant en fait quand elle demande Renaud en mariage, enfin quand elle lui demande d'être sa maîtresse, qu'elle soit sa maîtresse, à la fin de Claudine à Paris, où elle dit je veux un papa. Je veux être votre enfant. Et il y a cette relation qui est extrêmement presque choquante en fait quand on le lit, d'autant plus aujourd'hui, d'une demande en fait d'affection infantile et presque incestueuse.
Oui, tout à fait, c'est presque incestueux, et ça correspondait aussi, on va dire, à quelque chose qui était justement relativement courant à cette très belle époque aussi, cette idée, on en parlait pour Claudine à l'école, mais avec le délégué cantonal, des messieurs d'un certain âge, vaguement pervers, il faut bien dire ce qu'il y en est, qui regardaient les très jeunes filles. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment présenté pour son côté dérangeant, et c'est en ça aussi que...
Vous voulez dire que Colette force le trait délibérément et d'une certaine manière le parodie presque, ou est-ce que c'est une manière juste de s'inscrire dans la mode de l'époque et dans ses stéréotypes littéraires?
Non, je pense qu'elle va au-delà du stéréotype, parce que là il y a vraiment l'idée que cette héroïne Claudine a en elle toutes ces règles morales qu'elle demande à Renaud, a en elle tout ce cadre, mais elle refuse de le posséder en disant à son mari en quelque sorte « je vais vous le donner et puis vous derrière vous allez me le transmettre à nouveau ». Et il y a une très forte théâtralité finalement de la relation entre l'époux et l'épouse. On peut même presque parler d'artificialité finalement, puisque Claudine dit très clairement à Renaud voilà les règles morales qui aurait dû être respecté, le cadre qui aurait dû être posé, c'est telle chose, telle chose, telle chose. Donc à partir de maintenant, je vais vous demander de me poser ce cadre. Mais ce cadre, elle le possède déjà finalement.
Et puis c'est elle qui décide en fait. Oui. On en revient à quand elle dit « je veux être votre enfant, vous êtes mon papa », on en revient en fait à ce schéma qui est posé dès le début de Claudine à l'école. Les enfants sont plus responsables que les adultes eux-mêmes.
Oui, tout à fait, ce schéma qui est posé dès Claudine à l'école, puisque les instituteurs et institutrices de l'école de Montigny sont vraiment tout sauf exemplaires, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il y a l'histoire d'amour entre l'institutrice et son adjointe. Il y a l'adjointe qui séduit parallèlement un peu tous les hommes aussi.
Voilà ça, et puis surtout, en fait, elles ne font plus court. C'est-à-dire qu'elles passent leur temps à se câliner. Mais d'ailleurs, il faut insister quand même sur le côté pour le coup novateur, c'est-à-dire que Marcel, son cousin, dit clairement qu'il est avec Charlie, Claudine est avec Résie à un moment donné, Mademoiselle Sergent est avec Mademoiselle Aimée Lantenay. Il y a l'homosexualité est présentée vraiment comme une relation d'amour, comme une autre, et là, de ce point de vue-là, il y a quelque chose de complètement novateur. C'est pas quelque chose qui est caché, c'est pas quelque chose de honteux, au contraire, c'est quelque chose qui fait partie du registre des amours possibles.
Oui, tout à fait. Parce que quand Claudine a justement cette relation avec Rézi, c'est une vraie peine de cœur finalement qu'elle ressent lorsqu'elle découvre que Rézi, parce qu'elle est doublement trompée à la fois par Rézi et par Renaud. Y a déjà aussi un caractère extrêmement novateur dans le personnage de Marcel. Alors, soit dit en passant, le personnage de Marcel qui est peut-être le seul personnage masculin de Colette à ne pas être inconsistant, oui. À avoir une vraie épaisseur romanesque et déjà est posée la question justement du regard mécontent que pose son père Renaud sur l'homosexualité du fils, avec cette différence qu'on note entre l'homosexualité masculine et l'homosexualité féminine, puisque on disait l'homosexualité féminine, c'est vu comme quelque chose qui est là pour émoustiller un peu les hommes sur lesquels on peut passer. L'homosexualité masculine est vue y compris par le père vis-à-vis de son fils, comme une perte de virilité. Et donc, les deux ne sont pas mis sur le même plan. Et je pense que ce que Claudine dénonce aussi, enfin, à la fin de Claudine en ménage, c'est que ce qui relevait, ce qui pouvait relever d'une histoire d'amour entre elle et Rézi, est vu par Renaud comme une passade destinée à l'émoustiller lui, finalement. Et on retrouve justement cet aspect extrêmement problématique. Vous disiez du rapport quasiment incestueux entre un mari beaucoup plus âgé et une très jeune fille. J'ai envie de dire que même la relation entre Luce et son oncle, voilà, c'est vraiment le versant extrêmement négatif de cette relation. Et je pense qu'il y aurait même un travail très intéressant à faire sur de parallèle entre le couple de Claudine et Renaud et le couple, si tant est qu'on puisse appeler ça un couple,
entre Luce et
son oncle.
On va passer à le dernier volet, en tout cas, où apparaît le prénom de Claudine. C'est Claudine s'en va, et c'est peu de le dire, puisque Claudine laisse la place à un autre personnage dans ce texte, c'est le personnage d'Annie.
Je n'ai pas, même une minute, la honte de mon incapacité. Inertie serait peut-être plus juste, ou passivité. La vigilance active d'Alain absorbe tout et m'ôte le moindre souci matériel. J'ai voulu, la première année de notre mariage, secouer ma silencieuse oisiveté de petite pays chaud. Alain eut au fait de rabattre mon beau zèle. Laissez, Annie, c'est fait, je m'en suis occupée. Mais non, Annie, vous ne savez pas, vous n'avez aucune idée. Je ne sais rien qu'obéir. Il m'a appris cela. Et je m'en acquitte comme de la seule tâche de mon existence, avec assiduité, avec joie. Mon cou flexible, mes bras pendants, ma taille un peu trop mince et qui plie, jusqu'à mes paupières qui tombent facilement et disent oui, jusqu'à mon teint de petite esclave me prédestinait à obéir. Alain me nomme souvent ainsi, petite esclave. Oh, il dit cela sans méchanceté, bien sûr, avec seulement un léger mépris pour ma race brune. Il est si blanc. Oui, cher emploi du temps qui me guidez encore en son absence et jusqu'à sa première lettre, oui, je donnerai congé à l'urbaine. Je surveillerai Jules, je vérifierai les livres des domestiques, je ferai mes visites et je verrai souvent Marthe.
Annie, abandonnée mais contrôlée à distance par son mari Alain, pourquoi laisser la place à Annie dans ce dernier volet des Claudines ?
On peut considérer qu'Annie, c'est une autre facette de la pensée de Colette sur la féminité qui est présentée, parce que on a beaucoup parlé du personnage de Claudine, qui est un personnage très haut en couleur, qui donne une apparence d'émancipation, même si on a vu que c'est plus complexe que cela. Annie, elle, c'est la soumission totale et la soumission posée comme telle. Donc c'est elle la narratrice de Claudine. Claudine s'en va et elle va regarder justement Claudine avec ce regard extérieur. Elle va considérer son propre couple. Alors son mari est absent, Voilà, s'est absentée, lui a laissé un emploi du temps, comme on l'a entendu dans l'extrait, où il explique ce qu'elle doit faire. Et donc, elle va considérer son propre couple à la lumière de ce qu'elle voit du couple formé par Claudine et Renaud. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle a une vision très idéalisée du couple formé par Claudine et Renaud. À un moment donné, elle va dire à son mari, ce sont des gens mariés qui se comportent comme des amants. Et puis là, son mari va lui répondre très sèchement: avez-vous vu que des amants se voyaient plus que des gens mariés? Donc ça pose quand même une vraie question sur la nature du mariage. Et Annie, qui donne cette image de soumission, par contre, elle va faire quelque chose que jamais Claudine ne fait, c'est qu'à la fin du roman, elle va partir. Voilà. Elle va tout laisser tomber, elle va tout abandonner. Elle va laisser cet emploi du temps. Et ce qui est très intéressant dans cet emploi du temps que lui a constitué son mari, les choses qu'elle doit faire pendant son absence, c'est qu'il lui trace le cadre de ce qu'elle est censée faire. Et de ce fait, pour pouvoir s'émanciper, il lui suffira de faire l'inverse de ce que ce cadre propose finalement. Et elle va oser partir, ce qui est ce que ne fera jamais Claudine.
Voilà, ces deux visions de la conjugalité, où d'un côté, on a effectivement Annie qui est soumise mais qui part, et Claudine qui est émancipée mais qui reste. Ce qui, en fait, trace une manière de concevoir la vie conjugale de manière beaucoup plus nuancée, en fait, beaucoup plus subtile que ce qu'on peut attendre, en fait, parfois d'une vision en bloc de ce que serait une bonne conjugalité.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce changement de point de vue narratif, parce que ça montre justement que le couple et la conjugalité, c'est une question complexe, que pour être émancipé, il ne suffit pas de se dire émancipé, que les choses sont plus complexes que cela. Et même Annie, qui va partir d'ailleurs, finalement ne va pas trouver le bonheur dans ce départ, parce que justement, elle va tomber dans une autre problématique qu'elle appellera, bon voilà, mais ça c'est plus tard dans la retraite, sentimentale.
Donc qui est en fait le vrai dernier volet.
Oui,
en fait,
qui est le vrai dernier volet de la série. Elle va tomber dans ce qu'elle appelle le besoin de chair fraîche. Et elle dit à Claudine dans La Retraite Sentimentale, mais je vous souhaite de ne jamais être soumise à cette tentation de la chair fraîche, c'est-à-dire des hommes plus jeunes. Et donc elle va aller d'aventure en aventure, ce qui ne va pas l'empêcher d'être brutalisée par les hommes, mais elle va essayer d'assouvir cet appétit sexuel dont d'ailleurs Colette parle très librement aussi, et pour ça c'est assez novateur. Et assouvir son appétit sexuel, c'est pas pour autant qu'elle va devenir plus émancipée.
Mais parce que la vraie question de Claudine, et on va s'arrêter là-dessus, c'est la question en fait de l'amour. C'est-à-dire que le problème qu'a Claudine avec Renaud, c'est qu'elle l'aime.
Tout à fait. Oui, et on ne peut pas, je pense, en dire autant d'Annie avec Alain, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est en ça que Annie envie Claudine, c'est que elle voit cette relation d'amour. Quand elle dit des gens mariés qui se comportent en amants, c'est parce qu'elle voit cet amour très sincère. Mais à un moment donné, dans Claudine s'en va, elle dit qu'elle constate aussi du servage chez Claudine. Ce qui rejoint tout ce qu'on a pu dire auparavant, c'est que l'amour ne va pas justement sans cette soumission, et tout dépend à quel degré on la consent librement ou pas.
Merci beaucoup Audrey Delecour-Hénard de nous avoir présenté la série des Claudines. Alors de Colette justement, eh bien on peut lire l'essentiel de son œuvre, même la totalité de son œuvre, hein, qui est disponible dans la collection de la bibliothèque de la Pléiade, édition d'Alain Brunet et Claude Pichois, mais on le trouve évidemment dans plein d'autres éditions. Paru récemment aussi, je signale, le beau livre d'Emmanuel Lambert intitulé Sidonie Gabrielle Colette aux éditions Gallimard. Et aussi, j'en profite pour signaler le cahier de l'Erne sur Colette qui est paru en 2011, mais qui vient de reparaître pour les 150 ans de la naissance de Colette. Merci encore à vous.
Merci beaucoup.
De ma vie personnelle, vous en faites pas, elle était bien calme, allez. Ne vous laissez pas raconter d'histoire par un petit auteur de 25 ans.
Claudine pianote et c'est dans la cour, au fil de ses notes, un miracle d'amour, un toit de dentelle, un mur de satin, garçon, demoiselle, se donne la main. Petite Linotte, bien seule au salon, Claudine pianote, que le temps est long. Au clavier des voix, où tristement ses mains se promènent, d'une demoiselle au cœur aimant, le rêve s'égrène. Ah, faut-il si belle et sans amant, seule avec sa peine? Perdra-t-elle dimanche le breton quand on a 20 ans? Claudine pianote et c'est dans la cour, au fil de ses notes, un miracle d'amour.
Merci à l'équipe de Sans oser le demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand et Laure Daleste. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Timothée Hubert. On se retrouve sur les réseaux Twitter et Instagram et bien sûr sur le site de France Culture à la page de Sans oser le demander ou encore sur l'application Radio France.